100% d'Europe, Léa Lisa Westerhoff.
Bonjour à tous, la Bulgarie crée la surprise. Un nouveau venu de la politique, Kirill Petkov et son tout jeune parti anticorruption, ont remporté les législatives hier, doublant le parti conservateur. Cet homme d'affaires pro-européen de 41 ans, diplômé de Harvard, s'il arrive à former une coalition pour gouverner, devrait donc être le prochain Premier ministre, le poste le plus important du système politique bulgare. Dans le petit pays voisin de la Grèce et de la Turquie, un tiers de la population est à la retraite. Le vote de ces 2 millions de personnes était donc très convoité dimanche. Des retraités convoités, mais aussi des abusés, comme en témoigne le taux d'abstention très fort ce week-end. Le reportage de Damien Vodenicharov.
Tôt le matin à Sofia, les personnes âgées font des petites courses au marché. Les étals sont pleins, les différents produits sont bien mis en valeur. Les marchands saluent leurs clients réguliers. Les personnes à la retraite doivent bien faire leurs comptes. Avec une pension moyenne de 250 euros, ils ne peuvent se permettre de dépasser leur maigre budget. Valia a acheté quelques fruits, mais les prix ont augmenté.
Les pensions sont trop petites. Regardez ce que j'ai acheté. Je cherche des promotions, tout est beaucoup trop cher. Avec ces retraites, on ne peut rien se permettre. Et les prix ont triplé, et ils continuent d'augmenter. L'électricité, le chauffage, je ne mets plus le chauffage et j'ai quand même une note de 20 euros. Et ça va devenir encore pire.
Aujourd'hui, Valia ne veut plus entendre parler de politique. Par le passé, il lui est même arrivé de vendre sa voix. Un type de fraude électorale répandue en Bulgarie où les électeurs votent pour un parti donné en échange de quelques euros. Mais les politiques ne méritent plus qu'on vote pour eux.
Ça m'est arrivé une fois de prendre de l'argent. On m'a donné 20 euros, je crois. Mais là, je ne vais plus voter, je ne fais que m'énerver. Les prix augmentent et on ne fait rien. Les soins médicaux sont hors de portée, je n'ose pas consulter un médecin ou encore moins me faire opérer. J'ai des problèmes de dos, l'opération coûte 2500 euros.
Valia est loin d'être la seule à ne plus se faire d'illusions. Les politiques aiment faire des promesses en période électorale qui sont vite oubliées une fois les élections passées, explique Stéphane Stefanov de la Nouvelle Union des Retraités en Bulgarie.
Les politiques font des promesses mais n'entreprennent rien pour améliorer le sort des personnes âgées. Il y a trois grands problèmes auxquels sont confrontés la plupart des retraités en Bulgarie. Les faibles pensions, leur état de santé et l'isolement social, la solitude. Ces gens sont complètement découragés, ils n'ont plus aucun espoir. Plus d'un million de retraités se sont abstenus de voter lors des dernières élections en juillet.
En temps de Covid, les personnes âgées reçoivent une assistance financière. L'idée avait été lancée par l'ancien Premier ministre Boyko Borisov il y a un an. Sa campagne électorale consistait alors à rouler dans son 4x4 de luxe dans des villages appauvris pour rappeler aux personnes âgées qu'il les aidait. Les primes Covid pour les personnes âgées sont passées à 60 euros cette année, mais la pension minimum de 150 euros est nettement inférieure au seuil de pauvreté dans le pays, fixé à 184,50 €. À partir de Noël, une augmentation des retraites est prévue pour sortir les personnes âgées de la précarité. La pension minimum sera alors de 185 euros, soit 50 centimes au-dessus du seuil de pauvreté. Some like wine and some like hops, but what I really love is my scotch.
It's the power of positive drinking. La COP26 s'est terminée samedi avec un accord très décevant. À la dernière minute, l'Inde a réussi à avoir gain de cause sur une réduction plutôt qu'une sortie du charbon. Et la question des pertes et dommages, ce mécanisme de dédommagement pour les pays déjà impactés par le changement climatique, n'a pas été créé. Mais les entreprises, fort heureusement, n'attendent pas forcément leur État pour avancer en matière écologique. L'Association des distilleries écossaises, par exemple, a décidé d'être zéro carbone dans ses opérations d'ici 2040. Et à Aberfeldy, dans les Highlands écossais, la distillerie qui appartient au groupe Bacardi a même pour objectif de ne plus émettre de CO2 d'ici 2030 déjà. Un whisky qui ne donne pas la gueule de bois à l'environnement, c'est le reportage de Marie Billon.
Depuis les années 1890, la distillerie d'Aberfeldy produit du whisky aux abords du fleuve Tay. Dans ce long cours d'eau, il y a des moules, des saumons, des castors. L'odeur de l'orge fermentée se mêle au fracas du cours d'eau. À l'intérieur de la distillerie, les ampoules sont des LED, bien sûr, et tout le processus de production participe à l'effort environnemental.
My name is Stephanie McLeod and I'm the master blender for John Deere & Sons.
Stephanie McLeod est l'experte mélangeuse, celle qui détermine le goût de chaque cuvée.
Ici, nous produisons le whisky single malt Aberfeldy, qui mature pendant 12 ans. Je dirais que l'industrie du whisky est verte depuis longtemps.
C'est vrai que les fûts dans lesquels le whisky repose sont des tonneaux recyclés. Ici, ce sont des anciennes barriques de vin françaises et espagnoles qui sont utilisées, par exemple. Cependant, la production du whisky est très vorace en énergie. La distillation, la fermentation, chauffer, refroidir.
Mais on est beaucoup plus soucieux de l'environnement aujourd'hui. Avant, notre énergie provenait du charbon. Maintenant, on utilise la vapeur et des chaudières biomasse, comme dans notre distillerie jumelle Royal Bracla. Et avec nos deux distilleries, nous sommes parvenus à réduire notre empreinte carbone de 95%.
Cette chaudière biomasse, qui fonctionne donc grâce à la combustion de sous-produits du bois, a été installée en 2013. C'est la source primaire d'énergie pour la distillerie. Elle utilise aussi du gaz comme source secondaire, mais veut passer au biogaz d'ici à 2030. D'ailleurs, en parlant de biocarburant, John McKenzie est le manager de la distillerie.
Ça, c'est une cuve de fermentation. Nous sommes ici à une étape importante de la préparation du whisky où l'on extrait les sucres fermentés de l'orge. À la fin de ce processus, où on évacue les grains usés. Pendant longtemps, on a utilisé ça pour en faire du fourrage pour bétail. Mais désormais, nous envoyons ces déchets à l'usine de traitement biologique voisine. Il en ressort du gaz biologique et de l'électricité qui est ensuite utilisée dans le réseau national.
C'est depuis le début de cette année que la distillerie a effectué ce changement, trouvant plus utile pour l'environnement de participer à la création d'énergie propre. Les distilleries utilisent beaucoup d'eau, c'est pour ça qu'elles sont construites près des fleuves et rivières d'Écosse. Aberfeldy a même un barrage qui lui permet de puiser de l'eau pour refroidir ses alambics, mais la principale utilisation est pour la production elle-même.
Les eaux utilisées dans le processus de fermentation doivent être nettoyées pour pouvoir être rejetées dans le fleuve. Il faut en extraire les produits chimiques, les déchets solides et les résidus de cuivre. Nous avons une usine de traitement d'eau ici et un réacteur qui utilise la digestion anaérobie. C'est ce qu'on aperçoit là-bas.
La digestion anaérobie utilise des micro-organismes qui décomposent les matériaux biodégradables et à la fin d'un processus encore plus compliqué, des eaux propres sont rejetées dans le fleuve Tay. John et Stéphanie refusent de communiquer le montant des investissements, mais ils se chiffrent en millions, précise quand même le manager. Et le processus n'est pas encore terminé, dit-il. Et pour l'experte mélangeuse, c'est un effort que la distillerie et le groupe Bacardi doivent faire.
Les amateurs de whisky ne me posent plus uniquement des questions sur la boisson, mais aussi sur comment nous la produisons. On ne peut pas être parfait en un claquement de doigts, mais on est sur le chemin pour être neutre en carbone d'ici à 2030. Évidemment, tous les changements que nous faisons dans notre méthode de production ou en choisissant des sources d'énergie ne doivent pas l'être au détriment du produit.
Alors si les amateurs des whiskies du groupe ont vu une différence, ce sera dans l'emballage. Jonathan Wilson accompagne les visiteurs.
Nous sommes dans la boutique de la distillerie. Notre but, c'est de réduire les déchets que nous produisons. Par là, nous avons nos bouteilles de Dewar 15. Elles sont maintenant dans une boîte en métal, non plus en plastique. Elles sont donc plus faciles à recycler. Et à côté, nous avons des bouteilles dont le verre a été affiné.
Cela crée moins de déchets quand la bouteille est finie et ça permet aussi de réduire le poids des lots quand ils sont expédiés en palettes. Car le whisky est le produit écossais qui est le plus exporté, aux États-Unis d'abord et puis en Europe, en France surtout. Et l'impact environnemental de ces mouvements est plus dur à réduire.
Comment trouver du travail sans passer par l'étape classique de l'entretien ? Dans la région des Hauts-de-France, les job dating sont nombreux pour favoriser un contact plus direct et souvent plus détendu entre les employeurs et les demandeurs d'emploi. Mais à Amiens, Pôle emploi a même décidé d'aller plus loin et d'expérimenter un job dating en faisant du sport. Le reportage de Lise Verbeck.
Bienvenue à l'événement du Stade vers l'emploi. Je suis ravi de voir que vous faites connaissance et que vous rigolez déjà bien.
Sur la piste d'athlétisme, une centaine de personnes, basket au pied, dossard sur le ventre, s'apprêtent à transpirer.
Je vous propose de descendre, on va s'échauffer sous la pluie. Allez, venez.
Dans chaque équipe, il y a des demandeurs d'emploi et un ou deux recruteurs, le tout encadré par des professionnels de la Ligue régionale d'athlétisme.
Et en même temps, on va taper des mains.
Sur les dossards des participants, seul le prénom est inscrit, si bien que tout le monde est anonyme, candidat comme employeur, personne ne sait qui est qui.
Comme ça, et on va juste essayer de faire ça.
Une fois les muscles chauffés sous la pluie, les sportifs se rapatrient à l'intérieur et les choses sérieuses peuvent commencer.
Donc tout simplement l'équipe 1 et l'équipe 2... rejoignez le bout de la piste.
Endurance, course de vitesse, lancer de ballon, les équipes s'affrontent durant 15 minutes sur chaque atelier.
Oui. Est-ce que les petites tailles ont droit à être un peu plus réduites ?
Marie-Pascale et Virginie, deux candidates, font figure de bout en train dans leur équipe. Elles ont déjà connu des job dating classiques, mais ici, elles se sentent en confiance.
L'entretien, voilà. Toujours à 6 à 5 minutes, parce qu'ils ne peuvent pas nous connaître intimement, parce qu'on est totalement différents sur un lieu de travail et en dehors. Et c'est bien aussi que l'employeur voie comment on est, qu'on est des gens naturels et puis qu'on s'est rigolé.
Et le travail en amont, pour moi, m'a été très, très bénéfique.
Et alors, c'était quoi ce travail en amont ?
Eh ben, j'ai travaillé sur la VSI, donc c'est valoriser son image. Mmh. Ben, ça m'a appris déjà que pour bien valoriser mes savoir-être, par exemple, et mes savoir-faire. Ça, j'avais du mal un peu à les mettre en place, on va dire, à bien les rechercher. Et ça, ça m'a fait énormément de bien. Et aussi, j'ai appris certaines choses par rapport au stress. Parce que, eh ben, y a des méthodes à mettre en place pour essayer de faire baisser son stress, la respiration, sur l'alimentation, le sommeil, bien sûr. Donc, tout ça fait que ben, je vais essayer de bien mettre en place ce que j'ai eu en... comment, on conseille quoi.
Car tous les candidats, volontaires, ont suivi une formation menée par Pôle emploi quelques semaines avant pour les préparer au maximum pour le jour J.
Une règle très importante sur tous les lancers, c'est qu'on ne va pas chercher tant que tout le monde n'a pas lancé.
Laurine est recruteuse dans une entreprise de service à la personne. Incognito dans son groupe, elle observe beaucoup.
Bah, on voit, on découvre un petit peu les gens différemment. Je regarde si elles aident les autres, si elles sont un peu individualistes ou si elles écoutent les consignes aussi, parce qu'il y en a qui n'écoutent absolument pas les consignes. Je l'ai remarqué dans d'autres groupes, pas dans celui-là. Quand on donne un ordre ou quelque chose à faire, on voit s'ils vont suivre ou pas, quoi.
Arthur, 24 ans, à la recherche d'un emploi dans la banque, se prend au jeu rapidement et il fait tomber ses barrières.
De ne pas savoir du coup qui est recruteur, on a des comportements qu'on n'aurait pas forcément. Moi j'ai beaucoup de vouvoiements ou des choses comme ça, et là on est uniquement dans le tutoiement, on est assez proche du coup de ses coéquipiers. Donc c'est vraiment bien comme ambiance et au final on ne sait toujours pas qui est le recruteur, donc on se donne toujours à fond.
C'est un peu stressant ou pas ?
Je suis naturellement stressé donc oui. Mais bon après quand on est dans le soir on s'en rend pas compte et ça du coup le stress y part alors que... C'est sûr qu'en vrai job dating, là, le stress, il aurait été 100% présent.
Une fois les ateliers terminés et le repas du midi pris, l'anonymat des employeurs est levé pour laisser place à des entretiens d'un quart d'heure plus classiques entre les recruteurs et les candidats.
Donc à aujourd'hui, on a une quinzaine d'entreprises là, qui sont sur l'espace urbain Wallet.
Laurent Boucaud, directeur d'un des pôles emploi d'Amiens.
On a environ une centaine de postes pour 85 demandeurs d'emploi. C'est du CDI, c'est du CDD. Tout type d'emploi, pas beaucoup d'intérim, surtout des contrats à durée déterminée ou à durée indéterminée.
Dans quel secteur ?
La logistique, l'industrie, le téléconseil, la restauration.
Est-ce qu'il y a des vraies demandes dans ces secteurs-là et ils ont du mal à recruter ?
Alors, ils ont du mal, oui, ils cherchent toujours un autre moyen de recruter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les CV, ça devient un peu passe-partout. Et je pense que là, aujourd'hui, l'action permet de recruter autrement et de voir le demandeur d'emploi, son futur salarié, dans un cadre complètement différent qu'un CV en entretien. Là, on va voir l'esprit de groupe, on va voir la solidarité, on va voir l'entraide, enfin, toutes des choses que l'on ne peut pas voir au titre d'un entretien.
Lors de la précédente édition de ce job dating sportif, plus de la moitié des candidats avaient retrouvé un emploi.
Un comédien élu président de la République, c'est ce qui s'est passé en Ukraine en avril 2019. Après la diffusion d'une série « Serviteur du peuple » où il tient le premier rôle, l'humoriste Volodymyr Zelensky, s'appuyant largement sur le succès de cette série, devient président de la République. Nous n'avons plus affaire à une comédie mais à une tragédie, commentait alors Vladimir Poutine. Moscou qui entretient des relations tendues avec l'Ukraine depuis l'annexion de la Crimée en 2014. À partir de vendredi, Arte TV diffusera la fameuse série ukrainienne censurée en Russie. L'occasion pour Francine Beretti de se pencher sur cet ovni de la politique européenne.
Prochainement, sur vos écrans, enfin celui de votre télé ou votre ordinateur.
Pani Tapanove, résident Ukraine.
Monsieur le président,
là.
un comédien a vraiment été élu président de la République.
Дорогие украинцы.
Volodymyr Zelensky, dans son rôle prémonitoire de serviteur du peuple, bientôt sur Arte.tv.
Arte diffuse donc à partir de vendredi prochain la série Serviteur du peuple, une série ukrainienne à très grand succès dans son pays. Elle raconte l'histoire d'un prof, devenu malgré lui chef d'État, après une diatribe anti-corruption diffusée sur Internet. L'acteur principal du show, c'est Volodymyr Zelensky, l'actuel président ukrainien. Zelensky est devenu tellement populaire grâce à son rôle que les citoyens ont ensuite vu en lui l'homme providentiel, capable de les débarrasser d'une classe politique corrompue. 73% des électeurs l'ont choisi en avril 2019. Même si Zelensky n'est pas forcément l'Ukrainien de base, sa boîte de production est très fructueuse et l'oligarque Kolomoïski a financé sa campagne. Un comédien devenu président, on en connaît quelques exemples, mais de l'autre côté de l'Atlantique. Ronald Reagan.
We were going to run away. She'd been getting out to meet me for a long time.
Ou, pas président, mais gouverneur de Californie.
Moi, d'où tu veux rire?
Arnold Schwarzenegger. Mais en Europe, être une star de l'écran ne fait pas de vous, a priori, un bon dirigeant. Quoique, si l'on y pense, en Italie, le plus grand bouleversement politique des dernières années est venu du monde du spectacle, avec un slogan bien à lui.
Andate a fanculo!
Vaffanculo,
viva la pirateria!
Beppe Grillo, humoriste et fondateur du mouvement 5 étoiles. Dans les années 2000, Grillo est ultra connu en Italie. Ses spectacles sont très politisés, comme ici, quand il s'intéresse à la façon de contrer Berlusconi, qu'il appelle le nain.
Si on se met à parler d'impôts, il te vient immédiatement à l'esprit que le nain veut les baisser. Il faut parler d'autre chose, utiliser d'autres mots. Mais la gauche n'y arrive pas, elle n'y arrive pas. Il faut parler avec des mots qu'il ne connaît pas, comme culture, comme économie d'énergie.
Comme risparmio energetico.
Grillo devient l'emblème de la lutte contre une caste politique déchue. En 2013, à la surprise générale, son mouvement 5 étoiles récolte plus de 8 millions de voix aux législatives.
D'abord, on donnait le centre-gauche en tête avec les sondages de sortie des urnes. Puis maintenant, c'est certain, le centre-droit lui est passé devant. Mais l'exploit vient du mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo, qui, selon les projections, serait le premier parti de la Chambre des députés.
Premier parti de la Chambre en 2013. 5 ans plus tard, il accède au pouvoir et dirige son premier gouvernement avec un de ses cadres, Luigi Di Maio, vice-premier ministre aux côtés de Matteo Salvini et de la Ligue, l'extrême droite. Tous les militants n'ont pas bien pris. Côté italien comme côté ukrainien, le passage des comédiens de la scène au pouvoir n'est pas très concluant. Dans la lutte contre la corruption, par exemple, le bilan de Volodymyr Zelensky doit encore être consolidé, prouver son efficacité. Et les Pandora Papers, ces révélations d'un consortium international de journalistes, n'ont rien donné de bon pour lui.
Les journalistes de Slitstvo Info, un média d'investigation ukrainien, ont prouvé dans un film que pendant des années, Zelensky et ses amis du Kvartal 95, sa société de production audiovisuelle, ont caché leur fortune dans une douzaine de sociétés écrans à Chypre, au Belize et aux îles Vierges britanniques.
En Italie, le mouvement 5 étoiles a fini par rentrer dans le rang. Il ressemble à un parti comme les autres. Pourquoi d'ailleurs pense-t-on qu'une personne va pouvoir tout changer à elle seule? Que peut l'individu contre le système? On a cette vision romantique de David contre Goliath, mais dans la réalité, la machine bureaucratique et les pratiques douteuses sont dures à battre. Et c'est souvent dans le temps long de l'histoire que se remportent les victoires.
Accent d'Europe, Françoise Grelot était à la réalisation aujourd'hui. Retrouvez-nous sur notre site ou via notre podcast. À demain!